Les faucheurs volontaires emploient les moyens de la désobéissance civique non violente en agissant à visage découvert.
La banderole de tête de cette manifestation, ça va être « Change le système, pas le climat ».
La vie est en chute libre dans tous les secteurs. La situation globale de la planète relève de l'extermination.
Bonjour, vous êtes sur CFM, vous écoutez Les Croissants Décroissants, un magazine d'écologie sans chichi. Pour vos avis, commentaires, suggestions, vous pouvez toujours écrire à lescroissantsdécroissants@gmail.com. Aujourd'hui, nous allons parler d'énergie et de démesure. La transition énergétique, le mot est entre toutes les bouches. Enfin, surtout entre ceux qui ne comprennent pas de quoi on parle ou qui essaient de vendre leur techno-solutionnisme. Pour reprendre l'explication la plus souvent utilisée, il s'agirait de remplacer le pétrole, le charbon, le gaz, toutes des énergies fossiles, par d'autres sources d'énergie. Mais nous verrons ensemble que cette affirmation cache d'autres enjeux à relever et elle est un peu simpliste, voire fausse. Il ne s'agirait pas de s'engouffrer dans un nouveau système au risque d'élisser nos dernières ressources matérielles et financières pour, au final, voir que ça ne peut pas fonctionner. Mais avant de commencer à parler éolienne, photovoltaïque, voitures électriques et batteries, penchons-nous sur ce qu'est l'énergie. Le concept d'énergie apparaît au cours du XVIIIe siècle et est solidement acquis au XIXe siècle, avec Joule, Lavoisier, Carnot ou encore Clausius. Initialement, c'est un concept qui n'est rattaché à aucun élément concret. C'est un concept qui permet d'expliquer des phénomènes physiques, un peu comme quand on pose un axiome en mathématiques. C'est une proposition qui nous semble raisonnable et que l'on va considérer sans en faire la démonstration comme vraie à l'intérieur d'une théorie. Il n'y a donc pas d'élément physique que l'on sache montrer qui est l'énergie. L'énergie peut prendre différentes formes. On parle d'énergie thermodynamique, c'est-à-dire de la chaleur ou du mouvement. On parle d'énergie électromagnétique, comme la lumière, l'électricité, les aimants. On parle aussi d'énergie mécanique quantique, celle qui est à l'échelle des atomes, des particules, et enfin l'énergie chimique lorsque l'on parle des molécules qui interagissent. On peut définir l'énergie comme la capacité d'un système à modifier un état. On peut ainsi produire un travail, un mouvement de la chaleur, de l'électromagnétisme. L'énergie a sa propre unité, les joules, du nom de James Joule, l'un des contributeurs de cette théorie de l'énergie. Le concept d'énergie suit deux principes. Le premier principe est le plus simple, mais le plus important aussi. Dans un système fermé, c'est-à-dire qui n'a pas d'interaction avec d'autres systèmes extérieurs, l'énergie se conserve, c'est-à-dire qu'elle ne peut ni se créer, ni se détruire. Une analogie ? Imaginons que nous soyons dans une pièce fermée, notre système fermé. Tout ce qui est à l'intérieur y reste. Que l'on mette le bazar, que l'on casse avec un marteau certains objets, qu'on en brûle d'autres, etc. Certes, les objets auront changé de nature, seront passés d'un objet à de la poussière sous l'effet du marteau, mais leurs constituants restent dans la pièce. Lavoisier émettra l'idée que l'énergie ne fait que se transformer d'une forme à une autre. Ainsi, le bois en brûlant passe d'énergie chimique en énergie chaleur. Une machine à vapeur va transformer cette chaleur en énergie mouvement, etc. Le second principe de cette théorie sur l'énergie a été posé un peu plus tard. Il est question d'irréversibilité. Irréversible car nous constatons que les réactions se font dans la nature toujours dans le même sens. Par exemple, si l'on prend de l'eau chaude et de l'eau froide, qu'on les mette dans une casserole, on se retrouve avec de l'eau tiède, systématiquement. Pas avec de l'eau plus froide, pas avec de l'eau plus chaude, et surtout, il est impossible de récupérer notre eau chaude et notre eau froide à partir de notre eau tiède. Un autre exemple d'irréversibilité, sur Terre, on ne trouve que des oxydes de fer. Par exemple, les roches, quand elles sont rouges, la plupart du temps, c'est qu'il y a un oxyde de fer dedans. On ne trouve pas de minerai de fer tel, par exemple, un couteau, enfin, ou des barres de fer, ou une casserole qui proviendrait d'oxyde de fer. La réaction s'est toujours faite vers les oxydes. Pour expliquer ce principe d'irréversibilité, on décrit un nouveau concept, l'entropie. Quand un système se transforme, son entropie augmente. Cette entropie caractérise le degré de désorganisation. Ainsi, quand on met de la glace dans un verre que l'on pose dans la cuisine, il y a de fortes chances, vu que votre cuisine est chauffée, que la glace fonde et se transforme en eau. On passe donc d'un solide, où les atomes sont bien agencés, en eau, où les atomes se baladent un petit peu partout. La désorganisation de la structure des atomes augmente. Et quand on va chauffer notre eau, la vapeur d'eau est encore plus désorganisée au niveau atomique, sous forme de gaz cette fois-ci. Si jamais l'entropie ne change pas durant la réaction, c'est que cette réaction est réversible. Par exemple, le gel de l'eau est réversible. Par contre, la cuisson d'un gâteau, elle est irréversible. En tout cas, de mon expérience, je n'ai jamais réussi à faire des œufs à partir d'un gâteau. Mais arrêtons de parler de ces principes purement théoriques et revenons un peu à nos problèmes actuels. On parle souvent de produire de l'énergie. On vient de le voir, par le premier principe, l'énergie ne se produit pas. Elle ne se dégrade pas, elle est point final. Sur Terre, il y a de l'énergie dans la matière, nous en recevons du soleil. La seule chose que l'homme est capable de faire, à l'instar de la matière, des végétaux ou des autres animaux, nous ne sommes pas foncièrement différents sur ce point, c'est de transformer la forme de cette énergie en une autre forme. En captant les rayons du soleil, les plantes peuvent transformer l'énergie électromagnétique en énergie chimique via la photosynthèse. Les animaux, en mangeant les plantes, peuvent produire de la chaleur et produire des cellules. Nous pouvons, à partir du mouvement de l'eau, produire de l'électricité. Nous pouvons, en brûlant du bois, c'est-à-dire de l'énergie chimique, produire de la chaleur qui nous aide à transformer chimiquement nos patates. L'amidon qu'elles contiennent deviennent des sucres. Bref, en quelque sorte, nous sommes uniquement capables de convertir l'énergie d'une forme en une autre. Produire de l'énergie est peut-être une expression, mais techniquement, c'est impossible. L'homme a construit petit à petit des chaînes complexes de transformation pour son usage personnel. Ainsi, en brûlant du bois, on produit du feu par réaction chimique d'oxydation et donc de la chaleur qui ensuite est convertie en énergie mécanique qui elle-même est convertie en énergie électromagnétique, l'électricité. Ce qui est vrai avec le bois est vrai aussi avec le charbon, le pétrole, le gaz, mais aussi le nucléaire. Une centrale nucléaire n'est ni plus ni moins qu'une machine à vapeur qui utilise comme combustible de l'uranium. Il n'y a aucune différence majeure de concept entre ces différentes centrales électriques. Mais notre bois, quand il brûle, il produit des flammes. Il y a besoin d'une cheminée pour évacuer les fumées et les gaz. Et pour que les gaz partent, il faut qu'ils montent dans la cheminée. Et pour ce faire, il faut qu'il soit chaud. Autant d'énergie qui est absolument utile pour que la réaction se passe correctement, mais qui ne peut pas être utilisé. Il existe donc une notion de rendement dans toute transformation. Une partie de l'énergie est systématiquement et obligatoirement perdue. Enfin, perdue, pas vraiment, puisque le premier principe dit que l'énergie ne se détruit pas. C'est juste qu'elle n'est pas utilisée, que l'on ne sait pas l'utiliser. Ce principe est théorisé par le cycle de Carnot, donc élaboré par Sadie Carnot, qui n'est qu'une application des deux principes de thermodynamique que nous avons évoqués initialement. Carnot décrit ainsi la machine la plus efficace de transformation entre deux sources de chaleur. Une chaude, notre machine à vapeur, notre centrale électrique, notre radiateur, et une froide, l'air, l'eau, la rivière. Cette machine idéale peut fonctionner dans les deux sens. Ce peut être une pompe à chaleur ou un réfrigérateur. Une machine à vapeur, un moteur à combustion, etc. Le rendement maximum pouvant être atteint par cette machine est fonction de la différence de chaleur entre les deux sources. Si la source chaude est de température très proche de la source froide, alors le rendement est nul. Si la différence de température entre les deux sources de chaleur est infinie, on s'approche du rendement de 100%, mais bien sûr on n'est jamais à l'infini. Pour prendre l'exemple d'une centrale électrique, si l'on considère que la température de la rivière qui vient refroidir notre centrale est de 20 degrés, en ayant une source chaude à 300 degrés, comme dans une centrale nucléaire, alors le rendement théorique est limité à environ 50%. Oui, vous avez bien compris. De l'énergie initialement dans le combustible, on jette en quelque sorte la moitié pour réussir à n'utiliser au mieux que l'autre moitié. D'où l'aberration de produire de la chaleur avec de l'électricité. Reformulé autrement, si je vous donne une bûche pour vous chauffer, vous l'amenez à la centrale biomasse du coin, il n'y aura au mieux qu'une demi-bûche d'énergie qui va arriver dans votre convecteur électrique. Si vous la mettez dans votre poêle de masse, 90% de l'énergie reste sous forme de chaleur dans votre maison, 10% part dans la cheminée. Le choix logique est assez rapidement fait. Malheureusement, on a fait plutôt le contraire ces derniers temps. Mais peut-être êtes-vous passé à côté de l'information cruciale de cette dernière minute. Le cycle de Carnot, c'est notre mode de vie. Vous vous souvenez, j'ai dit il y a quelques instants, c'est la limite théorique du rendement. Quelle que soit la machine, quel que soit son fonctionnement exact, que ce soit des machines à vapeur, donc des centrales électriques, des pompes à chaleur, des réfrigérateurs, des moteurs à combustion, que ce soit des moteurs de voiture ou un réacteur d'avion. Non seulement on ne peut pas avoir de meilleur rendement, mais en plus ces machines, ce sont des piliers de notre société. Certains parlent même de société thermo-industrielle. Car finalement, sans la transformation d'énergie en chaleur, nous ne savons rien faire. Pas voyager en voiture, pas en avion, ni en train. Nous ne savons pas avoir d'électricité. Oui, mais il y a les éoliennes et le solaire. Nous y reviendrons dans la seconde partie de cette émission. Vous êtes toujours sur CFM et vous écoutez les croissants décroissants. Aujourd'hui, nous parlons d'énergie. Nous l'avons vu, notre société est basée sur la transformation d'énergie, que ce soit fossile ou nucléaire, en chaleur, puis en mouvement ou en électricité, ou de nouveau en énergie chimique lorsque l'on produit des métaux. Le problème, c'est qu'en brûlant des fossiles, nous nous heurtons au dérèglement climatique. Quand le combustible est de l'uranium, nous avons à traiter des déchets radioactifs, en gros les enfouir pour des milliers d'années. À mettre en perspective avec notre évolution, il y a 10 000 ans, l'homme inventait l'agriculture. Depuis, l'eau a quand même un petit peu coulé sous les ponts. Et puis, c'est sans oublier que l'uranium, on est allé le chercher avec de grosses pelleteuses et de gros canons qui tournent au pétrole. Bref, ce n'est pas forcément des solutions d'avenir. En tout cas, pas d'avenir très attractif. Mais heureusement, diraient certains, il y a l'hydraulique, l'hydrogène, le solaire et l'éolien. L'hydrogène, déjà, ce n'est pas vraiment une énergie, c'est un vecteur d'énergie. Il faut le produire, aujourd'hui à partir de gaz, ce qui n'a aucun intérêt environnemental, demain avec de l'électricité, ce qui nous ramène au point de départ, produire de l'électricité. Bon, je ne sais pas si vous avez déjà remarqué, mais pour l'hydraulique, du solaire et l'éolien, il faut du béton et des métaux. Et puis les barrages hydrauliques, d'une part, il n'y a plus beaucoup de place pour en mettre, et d'autre part, on a un autre souci avec les quantités d'eau qui tombent du ciel. D'ailleurs, en passant, avez-vous remarqué qu'au final, toutes ces solutions sont liées par la forme d'énergie initiale ? L'eau qui est dans les rivières, le vent, la lumière sur le panneau solaire, tout cela est intrinsèquement lié au rayonnement solaire. La pluie est liée à l'évaporation, donc au soleil. Le vent est lié aux différences de température, donc aussi au soleil. Allez, on peut construire quelques éoliennes et installer quelques panneaux pour recharger nos voitures et camions, ça ne fait pas de mal. Alors là, il faut un petit peu s'ouvrir les yeux et parler non plus d'énergie théorique, mais de la quantité d'énergie. Notre société occidentale est construite sur une montagne d'énergie, sur une gabegie, dirait-on. Un bonhomme peut développer une puissance de 100 watts environ. Pour faire avancer une voiture, il faut la force d'une dizaine de personnes. Pour faire tourner le mixeur à soupe, il faut 3 personnes. Pour alimenter un aspirateur, il faudrait 10 personnes. Vous imaginez 10 personnes qui pédalent pour que votre aspirateur fasse le ménage. Ce n'est pas super efficace à première vue. 10 personnes qui pédalent pour faire avancer la voiture en allant faire des courses. On a inventé mieux le vélo. D'ailleurs, c'est une des seules inventions qui permettent de diminuer notre besoin d'énergie, le vélo. Revenons-en aux ordres de grandeur. Quand un avion décolle, c'est 25 mégawatts qui sont utilisés, c'est-à-dire 250 000 personnes qui pédalent. Et sur un vol, c'est comme si 10 personnes pédalaient à la place de chacun des passagers, tant qu'on y est avec l'avion. Pour un vol Paris-Sydney, on consomme autant d'énergie qu'il n'en faut pour construire la pyramide de Khéops, pour bouger les pierres. Rien que ça. Et l'aéronautique utilise chaque année autant d'énergie que pour construire 400 000 pyramides de Khéops. Ah oui, pour alimenter en électricité les avions de Roissy, Charles de Gaulle, il faudrait construire 16 réacteurs nucléaires. On me souffle à l'oreille un mot. Démesure. Un autre, un des sens. Chaque année, l'humanité consomme 170 000 TWh d'énergie, l'équivalent de 30 000 centrales nucléaires, deux fois plus que dans les années 80. 170 000 TWh, cela veut dire 170 millions de milliards de watts. Des millions de milliards, c'est un peu difficile à se le présenter, non ? La distance de la Terre au Soleil, c'est juste 150 millions de kilomètres. Là, on parle de 170 millions de milliards. Un milliard de fois la distance Terre-Soleil en kilomètres. Bon, une fois qu'on s'est dit ça, on se dit, bon, plutôt que d'utiliser les énergies fossiles, on va utiliser de l'énergie solaire et photovoltaïque. Rien qu'en France, remplacer tout le pétrole actuellement utilisé reviendrait à devoir planter une éolienne tous les 8 km carrés ou couvrir 8000 km carrés de la France, soit 1,5% du territoire en panneaux photovoltaïques. Si l'on prend le rapport RTE sur l'avenir énergétique français, il faudrait planter 10 000 km carrés de photovoltaïque, soit 2% du territoire, plus 20 000 éoliennes en mer, plus autant sur terre, soit une éolienne tous les 22 km carrés. Ah, aussi, une éolienne, c'est 1 1500 tonnes de béton armé. Pour les panneaux solaires, il faut fabriquer le verre, mais également les tenir au sol avec le plus souvent du béton. Donc le problème reste le même. On est assez bien là, non ? Et ça, c'est si on se passe du pétrole et qu'au lieu de le pomper, on excave des montagnes. Mais dans la pratique, notre soif d'énergie, que dis-je, notre dépendance maladive addictive, fait que les énergies ne sont pas substituées, mais se sont accumulées jusqu'à maintenant. Nous n'avons jamais utilisé autant de charbon dans l'histoire de l'humanité qu'en 2023. Un point supplémentaire. Le monde étant fini, chaque nouvelle manière de transformer de l'énergie est vouée à n'être que transitoire, à moins que l'on accepte de transformer assez lentement pour que l'énergie qui nous arrive du soleil permette de produire notre combustible plus vite qu'on ne le consomme. Mais là encore, la problématique d'aujourd'hui, c'est qu'il faut faire vite. Et avant de prendre des siècles à découvrir l'éventuel hypothétique combustible miracle, nous avons un levier réel, efficace, clairement identifié à notre portée, la quantité d'énergie consommée. Pour finir, on a remplacé les esclaves par des machines à vapeur que l'on a alimentées par du bois, puis du charbon, puis du pétrole et ensuite un peu de nucléaire. Et aujourd'hui, on voudrait alimenter en éolien et solaire, mais en creusant des mines de minéraux. Certes, mais une fois que ces mines sont épuisées, et en fait elles sont déjà en grande partie, on passe à quoi ? On revient au départ, aux esclaves ? Alors, parlons transition. La transition consiste de partir d'un état initial et d'arriver à un état final. Avez-vous remarqué, aujourd'hui, nos politiques ne parlent que de transition en disant « on va changer les voitures thermiques en voitures électriques et planter des éoliennes », sans parler de l'objectif en soi. De toute manière, on l'a vu, c'est un peu plus complexe que cela. Il s'agit de transformer les fondamentaux, passer d'énergie thermique à des énergies minières pour exploiter directement le vent et le rayonnement solaire. On l'a vu aussi, on n'est pas certain d'avoir assez de matière pour l'assurer. Et puis on n'est pas certain finalement de vouloir raser la nature et planter des éoliennes. Le débat n'a jamais été posé. Bref, la transition, telle qu'on en entend parler, c'est un peu comme décoller avec un avion plein de kérosène sans savoir où on va, sans carte. La seule chose que l'on peut prédire, c'est de retoucher le sol à un moment ou un autre. Bref, se prendre un mur. Si on essaye d'atterrir trop rapidement, l'avion sera plein de kérosène, on ne peut pas atterrir avant quelques heures. Sinon, il s'écrase sous son propre poids et ça se passe plutôt mal. Fin de l'analogie. Pourtant, aujourd'hui, on sait que pour vivre dans un climat plus ou moins stable, il faudrait émettre entre 1,5 et 2 tonnes de CO2 par an et par personne. On sait aussi que notre mode de vie actuel émet 10 tonnes de CO2 par an et par personne. On pourrait donc avoir légitimement en tête qu'il faut diviser par 5 nos émissions, et donc notre activité, et donc la quantité d'énergie que nous utilisons. On parle bien de diviser par 5, pas de réduire, de gratter quelques pouillèmes de pourcent. Vous vous souvenez de la voiture ? Elle utilise 10 fois plus d'énergie qu'un humain pour se déplacer. La bonne nouvelle, c'est que dans notre ordre de grandeur, on pourrait la conserver si on la partage avec 5 autres foyers. Bon, c'est à prendre avec des pincettes car on a des postes incompressibles. On ne va pas diminuer par 10 la quantité de nourriture que nous absorbons, quand bien même aujourd'hui nous gaspillons significativement et que notre alimentation est principalement dans nos assiettes grâce au pétrole. Mais alors on s'en sort pas ? Peut-être que la question que l'on se pose n'est pas la bonne en fait. Pour conclure, posons la question autrement, non pas en termes de moyens mais d'objectifs. toute notre énergie, nous la dépensons pour quoi aujourd'hui ? Pour transformer la nature en déchets globalement. Alors pourquoi s'entêter à vouloir transformer notre système thermo-industriel en éolien solaire industriel avec autant d'énergie ? Si c'est pour, au final, être aussi malheureux et sortir les enfants dans une forêt d'éoliennes entre deux décharges de plastique et autres polluants éternels ou cancérigènes. C'est vraiment cela qu'on veut ? À bon entendeur. On veut du green. Rubrique greenwashing. Nestlé Waters, propriétaire de Vittel, avait un stand sur le semi-marathon de Paris. Il y était question de recyclage. Bon, c'est un petit peu se moquer du monde. Une pure action de greenwashing quand les bouteilles distribuées sur le parcours sont jetées aux trois quarts pleines sur le sol. Quand on met de l'eau en bouteille volée aux habitants proches des sources. Quand on traite cette eau alors que c'est interdit par la loi pour la rendre plus ou moins potable. Quand on dissémine de par la planète des quantités monstrueuses de plastique. Merci Nestlé.
N'écoutons pas les Khmer Verts et les prédicateurs à lampe à huile.
Salut le monde, le Figaro.
Ouais. Salut l'équipe, salut le métro.
Direct matin, direct midi, direct 4h, direct 5h, direct soirée, direct poubelle.
Et je veux redire que cela relève de l'éco-terrorisme.
C'était les Croissants des Croissants, un magazine d'écologie sans chichi. Pour vos avis, commentaires, suggestions, vous pouvez toujours écrire à lescroissantsdescroissants@gmail.com. À la prochaine.
Les faucheurs volontaires emploient les moyens de la désobéissance civique non violente en agissant à visage découvert.
La banderole de tête de cette manifestation, ça va être « Change le système, pas le climat ».
La vie est en chute libre dans tous les secteurs. La situation globale de la planète relève de l'extermination.